Bien, bonjour à tous et merci d'être venus, nombreux donc pour cette présentation d'un ouvrage. C'est un vrai plaisir pour nous de vous présenter donc cet ouvrage. On remercie bien sûr la librairie Mola. Alors, vous avez, pour ceux qui ne connaissent pas tout le monde, à côté de moi Jean Dumas. Donc Jean Dumas, à qui l'ouvrage est un peu dédié, puisque le titre de l'ouvrage c'est « 50 questions à la ville, comment penser et agir sur la ville ?» autour de Jean Dumas. Et puis Michel Favori, professeur donc à l'Institut d'études politiques de Bordeaux, qui est un co-directeur avec moi-même, Jean-Pierre Augustin, qui est professeur donc à l'Université Michel de Montaigne. Et nous sommes tous les trois liés à l'UMRADES du CNRS. Et je salue d'ailleurs la présence de son nouveau directeur, Denis Retailler, qui est là ici. Nous sommes aussi tous les trois très liés à la Maison des sciences de l'homme d'Aquitaine. Et je salue aussi la présence de son directeur, Christophe Bounot, pour vous dire que tout ça fait partie donc d'un ensemble de réflexions géographiques. Et cet ouvrage a une longue histoire que je vais résumer un tout petit peu, dans la mesure où elle s'inscrit vraiment dans plusieurs années de coopération avec de nombreux chercheurs, 50 questions, 50 auteurs donc, d'articles dans cet ouvrage sont représentés, qui était un des fondements un peu, un des points forts, un des fils rouges, il y en a plusieurs, de la Maison des sciences de l'homme et des UMR auxquels elle est associée ou qui sont associés aussi à cette maison et qui touchent à la ville. Mais nous nous sommes partagés le travail dans la présentation. Je me propose, moi, de vous dire quelques mots un peu du sous-titre. Pourquoi nous avons décidé, souhaité que cet ouvrage ait le sous-titre autour de Jean Dumas. Et puis Michel Favori vous parlera un peu de son contenu. Et Jean Dumas abordera aussi un peu son point de vue. Donc, je le disais, cet ouvrage, 50 questions à la ville. Comment penser et agir sur la ville pose bien sûr des questions importantes. Mais je crois qu'il convient de commencer par le rôle un peu qu'a joué Jean Dumas dans cette histoire de la recherche. Jean Dumas s'est toujours intéressé aux faits urbains. Il a créé d'ailleurs une collection qui s'appelle « Questions à la ville » à la Maison des sciences de l'homme d'Aquitaine, et ses recherches, sa thèse de doctorat, notamment plusieurs ouvrages. Je pense en particulier à un ouvrage qui a eu un succès mérité, qui s'appelle « Ville paradoxale », Bordeaux, « Ville paradoxale », qui est devenu presque incontournable, mais aussi de nombreux articles. On peut dire que pendant plus de 50 ans, Jean Dumas a marqué par sa personnalité et ses actions le champ universitaire bordelais. Il a été responsable donc de nombreux services institutionnels, que ce soit à Sciences Po Bordeaux ou à l'MSHA, qu'il a dirigé de 1987 à 1999. Ce parcours ne l'a pas empêché de poursuivre ses engagements sociopolitiques, commencés très jeune, notamment à la CFTC, puis à la CFDT, au Comité d'expansion d'Aquitaine, à la Maison de la promotion sociale, où il est toujours très actif, ou encore au Commissariat général au Plan, ou même à la Fondation nationale de sciences politiques. Bon, vous l'aurez compris, il est bien difficile de hiérarchiser les activités de Jean Dumas et c'est juste un propos introductif, puisqu'on va parler de l'ouvrage surtout après. Mais pour beaucoup de ces anciens étudiants, et nombreux sont là dans la salle, c'est sa fonction d'enseignant, de formateur, de directeur de recherche qui reste la plus prégnante. L'idée est donc venue de construire autour de lui, j'ai envie de dire avec lui, un ouvrage scientifique mettant à contribution de nombreux chercheurs qui ont travaillé dans les UMR CNRS que j'évoquais, ou à la Maison des sciences de l'homme, et d'inscrire l'ouvrage dans les missions de cette maison. Et le directeur de cette MSHA va pas me contredire quand il insiste souvent sur le caractère interdisciplinaire de cette maison, et le caractère interuniversitaire. Donc dans cette maison se retrouvent les universités d'Aquitaine notamment, et puis d'autres, et le caractère international. Or l'ouvrage, effectivement, à ces trois niveaux, remplit ces fonctions. Je crois que c'était intéressant de le signaler. Donc c'est un ouvrage ambitieux, qui aborde, à notre avis, de vraies questions concernant le penser et l'agir sur la ville, et qui vise un double objectif. D'abord celui d'une production scientifique où chaque auteur, je vous rappelle, plus de 50 auteurs, apporte une contribution originale et inédite. Ensuite, celui d'assurer à ce projet une large diffusion, car le savoir doit être partagé, offert à la discussion, voire à la critique. Et bien des points, bien des articles, on y reviendra tout à l'heure, sont des articles qui sont parfois complémentaires, parfois d'opinion ou de propos opposés, différents, en tous les cas, qui donnent donc du grain à moudre à ces recherches. On a organisé l'ouvrage à partir de trois parties, avec des mots un peu savants, les trois S, les sémiotiques, les stratégies et les synergies. Donc la première partie, c'est les sémiotiques et les langages de l'urbain. La deuxième partie, les stratégies et les acteurs de l'urbain. Donc on passe des langages aux acteurs. Et les synergies, c'est les énergies urbaines. En gros, vous l'aurez compris, donc on essaie de répondre à cette question, comment construire ces villes. Mais sur ce point, je cède la parole à Michel Favori qui va vous en dire un peu plus.
Bonsoir à tous et merci d'être venu pour écouter notre présentation de cet ouvrage. Alors j'enchaîne directement en disant que lorsque nous avons lancé aux auteurs ces questions, nous le faisions dans une double optique. On leur demandait, c'était la commande au fond, comment aujourd'hui présentez-vous et parlez-vous de la ville dans vos travaux. Et ensuite, on leur disait, voilà, vous avez essayé de répondre autour de votre spécialité. Alors nous avons autant de praticiens que d'universitaires. Or, sur la ville, on ne peut pas être les deux à la fois. Au moins, sinon c'est une grande schizophrénie. On l'est tour à tour, ou on l'est un temps, et on devient entre praticien ou théoricien et analyste. Et on leur a dit, voilà, autour de trois questions qui nous semblent scientifiquement poser aujourd'hui nos difficultés à penser l'objet urbain, qui est complexe, qui change rapidement. On leur a dit, voilà, traditionnellement, la ville est étudiée par la forme. Or, la notion de forme est-elle encore valide dans les analyses ? La géographie, traditionnellement, était de morphologie, de la ville, etc. La sociologie, c'était de la forme. L'architecte travaille sur les formes, etc. Deuxièmement, on leur a dit le changement. Le changement, lorsqu'on a, Jean-Pierre et moi, pensé au changement, c'est bien sûr parce que Jean, dans sa carrière, entre la géographie et la science politique, à un moment donné, a ouvert des passerelles particulièrement passionnantes, notamment dans sa thèse sur l'agglomération industrielle bordelaise, puisque, au fond, fabriquer du territoire pour produire du changement urbain, il nous a magistralement montré, avec des analyses systémiques, comment le système bordelais avait transformé la ville sur elle-même pour en faire, au fond, une métropole industrielle de l'ère fordiste. Et c'est un ouvrage de référence, à mon avis, que les étudiants devraient potasser souvent. Il faut le trouver, il est tout à fait passionnant de ce point de vue-là. Et le changement, c'était vraiment la question de changer les choses et engager l'action du changement dans la ville. Donc, ça impliquait le politique. Et ensuite, le terme référentiel récent, c'est le projet. Enfin, récent, ça fait quand même plus d'une vingtaine d'années. Et à la Maison des sciences de l'homme, nous avons eu plusieurs colloques autour du thème du projet. Donc on a dit, voilà, c'est dans ces trois axes, forme, changement, projet, que vous allez essayer de répondre avec votre spécialité d'architecte, d'historien, d'aménageur, de géographe, etc. Alors, je ne vais pas vous donner les textes, parce que 50, et puis il faut que vous achetiez le livre, bien entendu, pour les lire. Mais ce qui est tout à fait passionnant, quand on prend un peu de recul en lisant tous les articles, c'est de voir comment se sont renouvelées à la fois les façons d'approcher la question urbaine, et je pense qu'il y a un lien en permanence entre la complexité de l'environnement urbain sur lequel les professionnels cherchent à avoir une emprise et les analystes de cette action Donc, la notion de complexité, c'est pas compliqué. La complexité, c'est les multiples acteurs. Nous a mené à voir comment certains termes disparaissaient dans les articles. Et on voit, par exemple, le terme de réseau, qui a été un mode de gouvernance, qui a été une stratégie de développement, qui peut-être, selon certains articles, arrive à son terme. On voit également apparaître des notions qui n'y étaient pas, c'est-à-dire penser. Penser la ville, qu'est-ce que penser ? C'est fabriquer, bien sûr, de la pensée et des modèles. Le mot modèle n'y est presque pas. Et penser, c'est plutôt commencer à se représenter l'action et se représenter l'objet ville en train de se transformer. Et c'est étonnant de voir que des architectes, des analystes en géographie, des analystes en sociologie et dans les sciences de l'urbanisme approchent ces problématiques qui sont certainement les outils d'aujourd'hui avec lesquels on essaie de comprendre le projet urbain. Voilà. Donc les mots nouveaux qui apparaissent sont tout à fait intéressants. D'autant plus qu'en regardant les aspects sociaux du changement urbain, les nouvelles pratiques sociales, on s'aperçoit que l'objet urbain n'est pas une production unique avec des séquences bien planifiées, bien programmées, mais ce sont des dynamiques qui partent dans plusieurs sens, des directions, et avec lesquelles, finalement, le projet se construit en permanence. Et les articles reflètent bien cette diversité des approches. C'est toujours pareil, la notion structurelle, les structures de la ville, qui nous obsédait il y a 20 ans, Jean le fait dans sa synthèse, sont moins prégnantes dans les analyses, on structure moins les choses, c'est moins systémique aussi, le système n'est plus tout à fait ce qu'il était il y a 20 ans comme modèle d'analyse, et on est davantage dans les jeux d'acteurs. Voilà. Donc cette diversité des contributions nous montre aussi comment à la fois le monde universitaire, le petit monde qu'on a réuni là, mais ils sont très représentatifs, on va parler des Canadiens avec Jean-Pierre tout à l'heure, on peut parler des Lyonnais qui sont également là, on peut parler de l'école bordelaise qui elle aussi s'est régénérée tout au long de son évolution. Le monde universitaire a changé un peu ses outils d'analyse, même beaucoup, pendant que les professionnels aussi ont l'air de demander, pour certains, un peu plus de sciences universitaires et moins de sciences pratiques et de connaissances pratiques pour faire les choses. Des passerelles s'établissent et je crois que c'est un peu l'ambition autour de Jean qui a travaillé entre les étudiants, les thésards, le monde de la décision, le monde social dans la ville. Je pense que les passerelles se font, et ces passerelles, Jean n'y est pas étranger, certainement. Donc pour le moment, je n'en dis pas plus. Je vous invite donc, évidemment, à prendre ces articles. Comme ils sont, nous avons demandé aux auteurs 5 pages maximum, 3 références, il y a toujours des bavards qui partent sur 10 pages, c'est classique, donc on les a un peu coincés. Il y a des laconiques qui vous font les 3 pages à la virgule près, vous avez le nombre de mots, de repérages, c'est quantifié. Bon, on a à peu près ce format, de manière à ce qu'elle soit aérée, léger, que les textes puissent se répondre l'un l'autre, et ensuite il a fallu les assembler. Alors, qu'est-ce que ça allait donner ? Bon, on a travaillé à 3 pour les assembler. Il nous paraît qu'il n'y a pas trop d'artificialité. Ce n'est pas la compile classique souvent que l'on voit dans les productions collectives. Au contraire, il y a des enchaînements qui sont des enchaînements logiques. Alors, Jean dit dans sa conclusion, à leur façon, Jean-Pierre et Michel ont proposé sémiotique, stratégie et synergie. C'est notre façon, et c'est au fond, finalement, la façon aussi dont les contributions peuvent nous donner un petit éclairage possible sur au moins 3 démarches qui viennent se croiser pour comprendre la complexité de l'urbain. Voilà. Donc c'est plutôt une invitation à la réflexion, à ouvrir les perspectives, sans partir dans l'éclatement et les dispersions, parce que les auteurs se rejoignent sur beaucoup de points. Les termes de pôle apparaissent davantage, les termes de temps et d'espace dans la ville, ce qu'on envisageait très peu avec l'immobilité, apparaissent énormément. L'objet urbain se fond-il dans l'agglomération ? Alors je vais terminer là-dessus. Nous, dans le débat qui consiste à savoir si l'urbain détruit la ville et si nous avons une espèce de chaos décomposé qui ne cesse de répandre dans la franchise urbaine, la fragmentation ou la technicité de la ville, et faisant disparaître la ville en tant que forme historique, nous prenons un autre postulat, et nous avons le texte de François Cher qui est pour cela. Nous sommes certainement tous les trois d'accord pour dire que la ville ne meurt pas, mais se recompose, et la ville, sous d'autres aspects, est toujours essentiellement faite à la fois d'urbain. Je me souviens de Sanso qui refusait, le sociologue, et qui refusait l'urbain, il trouvait ce mot très moche, il disait « je préfère le mot ville », bon, c'est un sociologue. Mais je crois que les deux sont indissociables, et la ville ne meurt pas. C'est un peu la posture dans laquelle nous sommes, et beaucoup d'auteurs qui sont là ne nous ont pas donné le catastrophisme ambiant que l'on trouve sous pas mal de plumes.
Bien, alors mon point de vue à travers cette aventure qui évidemment doit l'essentiel à Jean-Pierre et Michel, quant à construire cet ouvrage, il s'agissait un peu d'un saut amical, mais d'un saut dans l'inconnu. Et finalement, on peut être heureux. Je peux être heureux, comme vieillard universitaire, de voir un ensemble qui, finalement, fonctionne relativement bien et qui représente, me semble-t-il, un état extrêmement intéressant de la réflexion sur la ville actuellement. À l'origine, il y a peut-être une certaine condition à laquelle j'ai largement participé par les relations que j'avais avec les uns et les autres, c'est que tous ceux qui ont écrit, Michel le disait, sont d'une part des praticiens, architectes, urbanistes, travailleurs sociaux, mais qui tous avaient rencontré à un moment donné la formation universitaire, la recherche et la réflexion universitaire, pour beaucoup sous ma responsabilité, mais d'autre part, les universitaires qui ont participé ont tous rencontré à un moment donné le travail qui est le travail de relation avec la décision sous forme d'expertise, sous forme de savoir, etc. Autrement dit, à la base de la Constitution, il y a un milieu producteur qui a cette expérience de la ville qui consiste à dire la ville, finalement, c'est à la fois quelque chose de passionnant, c'est quelque chose de complexe et c'est quelque chose où, sans doute, on a de grosses difficultés de compréhension, c'est-à-dire que l'on est prudent vis-à-vis de toutes les grandes théories. Ainsi, l'ouvrage, à l'évidence, ne se présente ni comme une série de vignettes monographiques à l'usage de guides touristiques, c'est clair, ni, bien sûr, comme un répertoire de solutions aux questions actuelles d'aménagement. C'est clair, on ne circulera pas mieux en ville après avoir lu le livre, hein. Au contraire. Par contre, donc, il y a un état de fait, et je retiendrai trois éléments qui se sont peut-être imposés à moi en le relisant. Tout d'abord, la ville nous apparaît comme un fait social global. Ce qui éclate dans le livre, c'est la complexité des choses en ville. La complexité des groupes sociaux, la complexité des participants à la ville, puisque à travers cet ouvrage sont évoqués aussi bien des dirigeants politiques et économiques à tel ou tel moment, mais également des sans domicile fixe, sont évoqués des jeunes rappeurs, mais en même temps des pratiques religieuses actuelles dans la ville. Donc c'est ça l'univers urbain. Et pour cela, j'étais extrêmement frappé de l'évolution que nous avions rencontrée, puisque Jean-Pierre, comme moi, enfin, moi un peu avant lui, mais enfin, il y a quelques dizaines d'années, nous avions eu dans nos travaux, dans nos recherches, à pratiquer un autre type de ville, qui était la ville, on dira, des structuraux fonctionnalismes, en gros des post-marxismes, où l'on avait travaillé sur les classes, classes sociales, classes ouvrières, etc. Ben, aujourd'hui, on a un propos qui est radicalement différent, radicalement, qui évoque un autre monde, et qui évoque un autre monde à travers, entre autres choses, un élément sur lequel Jean-Pierre reviendra, puisqu'il en est devenu un des grands spécialistes, cette notion d'espace public qui caractérise la ville. Espace public qui caractérise très fortement cette rencontre entre une société qui se fait dans sa complexité et puis un territoire sur lequel elle se développe. Ça, c'était le premier élément. Le deuxième élément qui apparaît et qui nous permet à ce moment-là de sortir de l'univers assez largement de l'univers académique français. Cet ouvrage apparaît comme une illustration de la transdisciplinarité nécessaire. C'est-à-dire que dans l'ouvrage, bon, il y a des titres aux uns et aux autres, et titres académiques, on les réfère par leur... Mais on ne peut pas dire que cet ouvrage soit de la géographie. On ne peut pas dire que ce soit de l'histoire, même s'il y a des propositions, que ce soit de la science politique. C'est autre chose. C'est un travail qui est commandé en termes de recherche par ce que l'on observe, par ce que l'on essaie de comprendre. Et l'ouvrage, par chacun des auteurs, est commandé par leur sens du travail. Ceci est important parce que, Jean-Pierre le signalait, eu égard de notre commande, même si elle était brève, les quatre pages, etc. Mais la nature même de l'ouvrage faisait que les auteurs, d'une certaine façon, pouvaient se lâcher. Ils n'étaient pas en train de dire « je fais un article que je vais repérer exactement pour telle section du Comité national des universités ». Là, chacun y est allé, ou beaucoup y sont allés, avec ce qu'il avait envie de dire sur un certain propos. Et ce qu'il a envie de dire, ça nous permet... et c'est, me semble-t-il, une expérience remarquable, de sortir de cette affreuse pluridisciplinarité instrumentalisée en France, que connaît bien mon successeur Christophe Bounon, que j'ai vécu, moi, en me battant à la tête de la Maison des sciences de l'homme, en négociant, en essayant de faire à la fois, alors on disait, ce fameux pluridisciplinaire, mais tout en ayant un œil sur les différentes disciplines, les différentes sections qui, accessoirement, s'observent souvent de manière, bon, peu amène, disons. Allez, dans certains cas. Là, rien de tel. Rien de tel parce que nous étions hors institution dans cet ouvrage et nous avons trouvé cet élément qui est la transdisciplinarité. Parler de la ville, c'est faire usage de beaucoup de choses et en particulier, c'est faire ce travail qui consiste à s'interroger à ce qu'on appellera l'intelligence de la ville, c'est-à-dire les moyens de former une pensée sur la ville. Ce que Michel nous expliquera, puisqu'il a travaillé là-dedans de manière importante. Et puis enfin, cet ouvrage, il manifeste de manière... Alors là, on l'avait découvert tout à fait à la fin. Il manifeste, au regard d'autres écoles que l'on en France, il manifeste une remarquable sérénité. Il y a une remarquable sérénité parce qu'il s'inscrit tout à fait à l'écart des prophétismes apocalyptiques que l'on rencontre d'un côté et de l'autre sur la ville. Parmi les propos, il y a une extraordinaire diversité des sensibilités, des propositions, mais rien qui renvoie ou qui renverrait à ces propos sur une soi-disant crise de la ville, hein, crise de la ville qui d'ailleurs pose d'énormes questions parce que cela renvoie à la pratique de critères qui généralement sont bien flous. Là, chacun s'est placé face à sa ville, à ce qu'il essayait de comprendre, ce qu'il essayait de saisir Et d'une certaine façon, c'est le résultat d'un long détour, mais au départ, on n'y était pas pour rien, pour beaucoup. Eh ben, notre ouvrage tend à réhabiliter, c'est à la mode dans un certain nombre de lieux, et on peut en être assez fier, sert à réhabiliter l'empirisme scientifique, hein, tel que développé au XVIIIe siècle, alors par Locke, Hume, bien sûr, mais surtout tel qu'il est représenté par un certain nombre d'anglo-saxons que les Français commencent à connaître et à pratiquer, je pense en particulier à Howard Becker chez les sociologues et d'autre part à Jack Goddy chez les anthropologues. Bon, pensées qui paraissent naturelles aujourd'hui, qui deviennent peut-être naturelles ici, foin des grandes théories, essayons de comprendre, hein, et puis d'avancer dans l'univers qui nous entoure. Voilà ce que l'on peut, me semble-t-il, retenir de notre travail, de notre cheminement, avec donc les deux éléments plus forts que représentent donc les espaces publics et l'intelligence de la ville.
Oui, alors, on ne va pas aborder tous les thèmes et toutes les questions, même si tout à l'heure, je vous proposerai quelques titres de certains articles pour vous donner le goût un peu et montrer la pertinence des questions qui sont posées. Mais je veux bien dire deux mots sur, effectivement, cette thématique un peu nouvelle qui est liée donc à ce qu'on pourrait appeler l'urbanité des espaces publics. On pourrait dire aussi le retour des espaces publics. Ce renouveau, un peu, qui est apparu assez tardivement, enfin, tout est relatif, mais c'est seulement dans les années 80-90 que la thématique apparaît, quand le mouvement fonctionnaliste qui avait largement éliminé un peu cet aspect des espaces publics. Donc depuis, nous avons beaucoup de travaux, beaucoup de réflexions, et l'ouvrage propose au moins 6 communications assez intéressantes, parce qu'elles sont, sans être contradictoires, sont très complémentaires. Et notamment, c'est pour moi l'occasion de donner la parole par mon intermédiaire aux Québécois qui ont travaillé sur ces questions-là, et de vous rappeler que la Maison des sciences de l'homme d'Aquitaine, avec le Canada, a des relations très fortes, et de même que l'UMRADES. On travaille en particulier avec l'INRS Urbanisation, Société et Culture, qui est installée à Montréal, et où il y a vraiment des recherches très pointues qui se font. Alors, sur cette question, je pourrais évoquer pourquoi donc ce thème est revenu à la mode, est redevenu un thème central, hein, en soulignant que, en fait, il faut distinguer différentes approches dans cette perspective donc des espaces publics. La première, certainement, est liée à l'ouvrage d'Habermas, qui est un ouvrage, en fait, de philosophie politique, pour qui, pour Habermas, donc, l'espace public est une sphère du débat public à l'intérieur d'une collectivité. Le titre, d'ailleurs, de son ouvrage n'est pas la traduction. En fait, c'est un ouvrage publié en allemand d'abord, mais la traduction n'est pas aussi bonne que, et elle a posé quelques problèmes. Alors, la deuxième approche, c'est celle de l'aménagement, qui considère que l'espace public, on pourrait dire les espaces publics en l'occurrence, puisque là il s'agit d'espaces concrets, sont des éléments physiques de la trame urbaine située entre les éléments du bâti. Et là on pourrait rappeler la définition classique que donnent Merlin et Chouet dans leur dictionnaire de l'aménagement. Les espaces publics sont la partie du domaine public non bâti affectée à des usages publics. Donc ces espaces se définissent par une propriété publique, d'une part celle des villes, des États ou d'autres collectivités, et d'autre part par un usage. Et la troisième approche, plus sociologique, qui est celle initiée par un certain nombre de chercheurs nord-américains. Bon, je pense à Richard Sennett, ou on pourrait même dire Jens Jacobs avant lui, qui ont apporté beaucoup. Mais ces trois approches, en fait, se retrouvent, se rassemblent, se complètent. Et les textes dans cet ouvrage le montrent bien. Et je vous propose d'évoquer rapidement deux approches. L'une un peu, on va dire pas idéaliste, mais un peu idyllique de présentation des espaces publics, et puis d'autres qui montrent qu'en fait, attention au discours de célébration, et il est important de souligner aussi les dérives ou les risques, les difficultés en tout cas, d'aménagement de ces espaces publics. Alors sur le premier point, ce que les auteurs soulignent, c'est que ces espaces qui sont des lieux à voir, des lieux pour être vus, des lieux pour être avec les autres, qui permettent un jeu interactif où les rôles d'acteurs et de spectateurs sont interchangeables. Ils insistent sur le vécu et la perception de ces lieux qui restent complexes et que les appréciations que portent les citadins peuvent varier selon les individus. Mais ils définissent en fait cinq caractéristiques dans cette approche un peu idéale de ces espaces publics. La première est celle de l'anonymat, qui permet à chacun de participer à un mode d'échange différent de celui de la convivialité communautaire. Cet anonymat qui facilite la rencontre d'individus, d'âges, de milieux sociaux divers, même si, plus que de rencontres formelles, il s'agit de croisements, d'observations, de bains de foule qui s'établissent dans un espace de désenclavement, autorisant un apprentissage de la vie publique et une initiation à la diversité urbaine. La deuxième caractéristique, qui est à la fois complémentaire et un peu opposée à la première, est celle de favoriser l'affichage des différences, car l'anonymat, il était question dans la première caractéristique, est relatif, et si chacun accepte pour un temps d'abandonner les habitudes et les fonctions de son enracinement local, tous affichent cependant leur appartenance par la tenue ou par l'allure, jeunes des banlieues, cadres moyens, personnes âgées, couples se distinguent les uns par rapport aux autres. Dans certains cas, d'ailleurs, l'excentricité est possible et des groupes, ça peut être des groupes un peu marginaux, des punks, mais aussi des groupes sportifs, trouvent là un moyen d'exister, de s'afficher. La troisième caractéristique, c'est celle qui est liée à certains rituels. L'observation montre que pour beaucoup, la fréquentation de ces espaces s'inscrit dans la régularité des rythmes et des parcours. Et si les passants occasionnels sont nombreux, une partie du public est constituée d'habitués qui s'approprient les lieux. Dans le cas des jeunes et des personnes âgées, par exemple, on constate une tendance à la répétition des types d'usages. On vient chaque matin ou chaque fin d'après-midi ou chaque samedi pour un itinéraire quasi programmé d'un lieu à un autre et pour une destination précise. La quatrième caractéristique, toujours en complément avec la troisième, est celle de l'aventure, qui s'oppose donc un peu à cette caractéristique des rituels. Donc l'aventure est la recherche parfois de partenaires qui ne sont pas ceux de l'espace de proximité du domicile, où l'on vient pour échapper aux contraintes, aux habitudes quotidiennes, se dégager d'un milieu qui peut être pesant par ses routines et ses traditions. Cette confrontation avec les possibles s'inscrit souvent dans un désir de mobilité sociale, de vivre autrement et d'aventure. Mais la plus importante caractéristique, c'est donc la cinquième que l'on vous propose, c'est le caractère le plus englobant, l'espace public est un lieu privilégié de socialisation. Ce qui compte, c'est le regard et le côtoiement des autres. Les interactions sociales minimales questionnent sans cesse les représentations que chacun se fait de l'autre, là plus qu'ailleurs, et en toute liberté, il est possible de voir, d'observer, de se faire voir et de participer à un mélange urbain. Ce processus d'interaction des cultures apparaît clairement lors d'attractions festives. On pourrait développer ce thème. Donc, dans cette perspective, les espaces publics sont à la fois l'espace sensible de la rencontre, de la coprésence, l'espace des différences affichées et plus globalement l'espace de la citoyenneté. Alors, on a une vision, et je résume un peu cette première approche, qui est plutôt sympathique et qui fait que, effectivement, si l'on reste à Bordeaux, un certain nombre de promenades sur les quais, après la manière des quais, montrent qu'il y a cet enthousiasme, ces coprésences. Cette approche, qui reste valable, hein, est souvent critiquée. Nos amis donc québécois, notamment je pense à Annick Germain, qui a fait un très beau papier qui s'appelle « Grandeur et misère ». de la notion d'espace public, met le doigt sur les dérives qu'il peut y avoir. Alors d'abord, elle rappelle le grand défi que va introduire progressivement la modernité dans notre manière de concevoir les espaces publics, d'apprivoiser la dissociation des lieux et des milieux qui auront désormais leur logique propre, mais non indépendante toutefois. Quoi de plus difficile, en effet, que de cesser d'associer spontanément une forme spatiale et une vie sociale, de prêter à une place publique la vertu de favoriser les échanges. Elle rappelle aussi dans sa critique un peu de l'histoire et sa critique du fonctionnalisme, hein, puisqu'on a quand même, à partir des années 75, un courant fortement... clairement défini, clairement international d'ailleurs, qui met en cause un peu cette séparation des espaces, ce fonctionnalisme des espaces qui a marqué et qui marque encore, hein, par son poids, beaucoup d'organisations urbaines. Et elle rappelle que Le Corbusier, donc un des tenants de ce fonctionnalisme, condamnait la rue traditionnelle, hein, considérait qu'il fallait vraiment la supprimer. Mais dans cette approche, ce que nous dit... Annick Germain, en évoquant notamment le cosmopolitisme, alors qui est plus vrai, bien sûr, à Montréal qu'à Bordeaux, mais à Bordeaux, on a quand même des éléments très clairs de ce cosmopolitisme. Quand on se promène dans le quartier Saint-Michel ou dans d'autres quartiers, et encore même dans la banlieue, les marchés qui sont quasiment des marchés maghrébins à ce nom, et bien d'autres exemples montreraient. Et elle nous dit que cette approche ne semble pas suffire, car entre-temps, le tissu social des métropoles, malgré donc cette valorisation des espaces publics, s'est fragmenté. La ville ne fait plus société. L'heure est à la cohésion sociale, mais il faut retrouver le sens de la communauté, nourrir un sentiment d'appartenance que les citadins semblent décidément vouloir conjuguer au pluriel dans les métropoles de la diversité. En effet, écarteler entre les groupes, les réseaux, les clubs, voire les communautés de plus en plus variées, ne risque-t-il pas de s'égarer, de fuir la ville pour se réfugier dans des environnements plus contrôlés ou alors rêver une mythique campagne ? Or, pour rassembler, nous dit-elle, réunir, être ensemble, sortir chacun de son domaine privé, combattre les replis communautaires, quoi de mieux que des espaces publics attrayants ? L'époque contemporaine assiste donc au retour de l'espace public. Et alors, sa question donc finale presque, qui met en cause un peu à la fois, ou qui joue un peu sur une sorte de dialectique du beau côté des espaces publics et de leur dérive. Hein. Que faire de ces espaces résiduels dont se sont emparés des indésirables au cœur des villes ? Comment nettoyer des lieux utilisés sans ordre ? Comment y établir un sentiment de sécurité ? Bref, comment faire un aménagement sélectif des espaces publics qui puisse attirer les uns et décourager les autres ? Donc, elle pose des questions aux aménageurs. Hein, et bien sûr, il n'y a pas de réponse simple. Alors, un autre article, et j'en resterai là, est intéressant. C'est un article toujours d'une chercheuse de l'INRS de Montréal, mais qui était doctorante donc à Bordeaux 3, donc ça montre bien les échanges dans ces co-tutelles de direction, une étudiante que j'ai dirigée donc avec Annick Germain, justement. Et Laurence Liégeois, elle, propose un article avec la question suivante, la Disneylandisation, donc Disneylandisation de la ville sonne-t-elle le glas des espaces publics ? Et elle insiste donc sur des stratégies qui sont en partie internationales, hein, pour valoriser certains espaces publics, mais qui ont ces dérives, hein, qui vont jouer donc sur le caractère privé parfois de ces espaces. Et elle souligne, je vais seulement les rappeler rapidement, trois stratégies de traitement de l'espace public, surtout vraies en Amérique du Nord, mais à mon avis, on a quand même des éléments forts dans nos villes européennes, même si le patrimoine, le passé évite certaines tendances qui apparaissent plus fortement en Amérique du Nord. Alors pour ces trois stratégies, nous dit-elle, la première d'entre elles est d'ailleurs la thématisation de l'espace, un des éléments phares de l'urbanisme postmoderne, selon les chercheurs de l'école de Los Angeles. Elle vise à aménager l'espace de manière cohérente autour d'un fil conducteur auquel se rattachent tous les référents spatiaux utilisés, de même que les parcs Disney proposent une rue principale, la fameuse Main Street, aménagée sur le thème de la petite ville américaine typique du début du XXe siècle. On retrouve dans bon nombre de villes des espaces qui mettent en scène un patrimoine historique ou culturel précis. Donc ça peut s'appliquer donc évidemment dans les villes européennes. Deuxième stratégie qui consiste à créer des hétérotopies. Elle fait référence à l'invention de Michel Foucault qui opposait utopie et hétérotopie. L'utopie étant quelque chose qui était encore dans le rêve, dans l'imaginaire, l'hétérotopie étant une sorte de, d'utopie mise en forme. Et donc, dans cette perspective, elle fait référence à un contexte spatial et temporel autre que le contexte géographique et culturel local. Donc, les parcs Disney proposent une succession d'univers différents et dans lequel le visiteur est plongé au fur et à mesure de sa visite. Elle évoque la festivalisation des espaces publics. Alors, on peut penser à Bordeaux, notamment ce qui se passe sur les quais à certains moments de l'année, les grandes fêtes qui y sont organisées. La festivalisation des espaces publics relève donc de cette volonté de donner l'espace de valeur et d'image qui transporte l'individu devenu voyageur immobile dans un ailleurs. On mise alors sur le caractère spectaculaire de l'espace pour attirer visiteurs et capitaux. Enfin, troisième stratégie qu'elle évoque, la Disneylandisation réfère à la volonté de mettre en ordre les espaces publics. Alors, c'est une critique un peu forte, hein. Et on va rejoindre un peu la question que posait Annick Germain avant, hein, comment cette mise en ordre va évacuer les populations qui ne font pas partie de l'ordre souhaité, c'est-à-dire le contrôle étroitement des usages et pratiques qui s'y déroulent en mettant en place des dispositifs permettant d'exercer une mainmise sur les comportements et prévenir ainsi tout débordement par rapport à cet ordre établi. Donc vous l'aurez compris, et Jean évoquait tout à l'heure la question des sans-domicile fixe, mais il y en a bien d'autres hein, qui sont parfois dans l'espace public et qui peuvent gêner. Donc on a à la fois une sorte de pasteurisation, on pourrait dire, des espaces publics qui pose question et qui est un peu contradictoire avec la valorisation, telle que je le présentais au début, des espaces publics qui devraient permettre cette coexistence, se vivre ensemble. Donc voilà quelques éléments pour vous montrer que dans cet ouvrage, donc, et ça je confirme ce que j'en disais, donc, il n'y a pas une thèse, il y a un ensemble, il y a une volonté de proposer un certain nombre de réflexions, de perspectives, souvent complémentaires, et qui posent de vraies questions aux aménageurs. Hein. Pas seulement penser la ville, mais agir sur la ville. Et voilà un des exemples que je voulais vous proposer. Mais sur l'intelligence de la ville ou la réflexion, là, je vais céder la parole à Michel Favori.
Merci, c'est une question folle, parce que y a-t-il une pensée sur la ville, une pensée de la ville. C'est très ambitieux. Mais vous verrez, en croisant les articles, il est plutôt question ici de méthode, de travail et de renouvellement des méthodes en sciences humaines ou dans les sciences de l'aménagement. Alors, je ne vais pas faire un cours théorique, n'ayez pas peur, mais je m'adresse plus particulièrement aux étudiants, s'il y en a, et aux chercheurs, pour discuter avec eux. En essayant de classer un peu tous les articles sur l'intelligence que la ville peut susciter et sur la ville comme structure intelligente elle-même. Les chercheurs approchent par plusieurs entrées, bien sûr. La première, je fais le lien avec ce que vient de dire Jean-Pierre, parce que j'ai le texte d'Annick Germain bien en tête. La thématisation, c'est une des tendances. Et si la ville, si nous sommes certains que la ville a un avenir, cet avenir pourrait être par effet de contagion de modèles unidimensionnels. Et pourtant, il y a des résistances et des originalités. C'est un peu le contrepoint à chaque fois. Et vous verrez que des articles sur les tendances sont assez critiques. Pas alarmistes, mais critiques. Uniformisation des pratiques. la routine des applications, le benchmarking, on va voir ce que fait un autre et on l'importe, etc. Et en permanence, on voit bien que par les tendances se dessinent des espèces de solutions toutes faites qui gisent dans telle ville. Or, une ville n'est pas une autre ville. Et ça, l'originalité se retrouve grâce aux historiens, qui ont réussi à montrer qu'il y a des modèles, mais aussi des originalités à certains moments, parce qu'il y a des projets qui sont des projets politiques concrets. Bon, ça, c'est par les tendances. La deuxième intelligence de la ville, c'est plutôt par les dynamiques. Avec un mot qui nous divise tous et qui nous rapproche tous, c'est le terme de métropole ou le concept de métropole. Que les géographes ont approché un peu de loin, pour l'urbaniste, en dehors des plans métropolitains et des grands schémas d'aménagement, bon, c'est quelque chose qui s'agglomère et qui se développe. Pour les historiens, ils sont brodéliens, ils savent très bien ce qu'a été la métropole en termes économiques. Ils ont tous lu les magistrats Lepage de Brodel sur la métropole. Et pour les économistes, il y a un processus, mais qui serait peut-être uniformisateur. Il faudrait regarder. Mais cette dynamique et cette dynamique se retrouvent donc dans 4 ou 5 articles. Il y a l'article Claude Lacour sur les métropoles. Mais ça, c'est les dynamiques ou les grandes dynamiques. Une autre approche de l'intelligence un peu de la ville serait plutôt par les interactions. Or là, il y a tout le pan des politistes qui ont travaillé autour de Jean. Je pense aux contributions de Jean Petaut, de Pierre Sadran, qui, indirectement et directement, posent la question de l'évolution actuelle des interactions vers la ville démocratique. L'âge de la démocratie des villes n'est peut-être pas encore arrivé. C'est des villes du spectacle, certainement, on le voit, ça c'est les tendances. Mais la participation, les Anglais disent empowerment, l'association à la décision, par rapport au grand modèle de la ville, quand François Stagliano parle de la ville de Chaban, de la ville de Marquet, de la ville de Juppé, c'est comme si l'homme portait son projet politique, le vendait et le plaquait. C'est de la culture, mais est-ce que c'est les Bordelais de l'époque ? Ça, c'est toujours difficile à dire. C'est la question des élites, de la démocratie dans la ville et de l'intercommunalité, parce que finalement, l'agglomération et la métropolisation se faisant amènent bien sûr la participation, et donc la question démocratique est incontournable, et les politologues, les politistes l'ont bien analysée. Il y a aussi une autre grille de lecture, c'est par les constructions. Il y a du constructivisme au sens scientifique et actuel dans l'approche de ces articles, c'est-à-dire qu'on voit bien que dans certaines particularités, spécificités, les jeux d'acteurs sont assez inventeurs et même inventeurs de choses qu'ils n'attendaient pas au départ. C'est-à-dire que la ville se fait aussi par elle-même, il y a des constructions qui émergent, et la construction peut être sociale, peut être historique. Oui, l'article sur les tentes qui font irruption dans l'espace public est totalement inattendu, c'est un avatar. Il est question des avatars qui interviennent dans le processus d'aménagement. Quand on ne l'attend pas, qu'est-ce qu'on fait ? Ça oblige à des solutions concrètes ou des solutions déjà toutes faites qui dormaient, qu'on réactive. Toujours aussi dans cette double vision, cette tension entre l'uniformisation possible ou unidimensionnalité. Si nous nous copions tous, on ferait tous la même ville quelque part, ça serait la thématique de la ville franchisée, et puis on change d'agglomération, on retrouve toujours les mêmes logiques, les mêmes problèmes, les mêmes paysages, les mêmes discours, les mêmes. Et en même temps, les particularités et les résistances locales, puisque Jean l'a très bien dit, on a aussi de l'empirisme de recherche qui nous montre que le local prime énormément. Il y a dans les versions urbaines de l'action, il y a beaucoup de différences. Et puis, recoupant le tout, 5 articles vont avancer un terme un peu mystérieux pour le non-initié, c'est les représentations. Les représentations, tout simplement, ce sont ces objets de pensée que nous nous communiquons et qui sont contaminants et avec lesquels nous pensons l'environnement dans lequel nous vivons. Or, on le voit bien au travers des articles, il y a les représentations des scientifiques, il y a les représentations, disons, des aménageurs qui modélisent, qui proposent les tendances, il y a les représentations des politiques, et on voit moins, parce que c'est beaucoup plus compliqué, les représentations des habitants, qui sont quand même les acteurs principaux, on les voit émerger, mais c'est plus difficile. Et les représentations, nous, très simplement, nous aident à comprendre comment des idées toutes reçues, des modèles importés, des solutions qui se retrouvent ailleurs, etc., qui iraient bien à cet endroit-là. Je pense à certaines solutions jardinées que l'on voit d'une ville à l'autre. Ah, c'est bien, là, c'est ce qu'il faudrait faire. Bon, c'est parti, et ça se fait ailleurs. Et c'est peut-être... Bien sûr, il faut imiter. Le néoclassicisme s'est répandu comme ça avec bonheur, je crois. Mais il y a aussi des moments où penser, c'est aussi réagir. Or, là aussi, en contrepointe, toujours avec ces deux tendances, dans les articles, vous trouverez le risque de la représentation qui est monolithique, qui est invasive, qui est toute faite, qui est là, toute prête à permettre de penser la ville, et puis, justement, ces solutions qui sont solutions atypiques. Et on le voit au travers de pas mal d'articles, notamment, qui sont, alors, soit une crise des représentations, il y a un article dessus, soit... Qu'est-ce que représentait l'urbain de Thierry Pacaud ? Je pense à l'article, évidemment, d'Agnès Berland, qui est là, elle pourra nous en parler, qui parle de discours, mais derrière, je la connais trop pour savoir que ce sont des représentations aussi, des solutions publiques de la démolition des grands ensembles, ou pas, etc. Quand c'est parti, c'est parti. Et l'action se légitime par elle-même, les représentations sont toutes faites. Voilà. Cinq, donc, à peu près, grandes directions au travers desquelles la ville intelligente ou l'intelligence sur la ville peut être concrètement approchée. Ça, c'est plutôt évidemment le travail de recherche qui nous le montre, parce qu'il y a des méthodes derrière pour faire émerger ces discours ou ces représentations. Voilà.
Sinon, je crois qu'on arrive peut-être au terme de la présentation. Donc, écoutez, merci beaucoup pour votre présence, encore une fois, pour votre attention. Et je crois que si certains veulent discuter avec les auteurs qui sont là, ou avec nous-mêmes, c'est encore possible. Sinon, bonne soirée à tous.
Bravo.